que c'est le rénovateur, on peut dire, si le terme n'était pas d'un politique trop accusé, n'est-ce pas, le rénovateur de l'histoire militaire en France, son recréateur au XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Je lui laisse tout de suite la parole.
Bon, merci, mon cher président, monsieur le recteur de l'Institut Saint-Idis, monsieur le recteur, cher président et ami, mon père, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai été très touché de l'invitation que le prêtre qui a assisté à Roland Mounier dans ces derniers instants m'a fait de rendre hommage à ce grand maître à qui j'ai eu l'honneur de succéder à la Sorbonne avant de passer le flambeau à mon ami Yves Durand. Jean-Paul Lefebvre vous a déjà dit combien Roland Mounier a été sensible aux problèmes militaires. Et l'un des derniers textes de sa plume, je n'ose affirmer que ce soit le dernier, est la préface à l'histoire militaire de la France en 4 volumes, dont les presses universitaires de France achèvent actuellement la publication. Cette préface aura étonné sans doute bien des lecteurs, Roland Mounier n'ayant pas écrit d'ouvrage consacré spécialement à la guerre ou même à l'institution militaire. Celles-ci, les institutions militaires, sont même absentes de son livre magistral sur les institutions de la France sous la monarchie absolue. Qu'il me soit permis de dire que cette absence a été volontaire. Non que Roland Mounier attribua peu d'importance à l'histoire de l'armée, tout au contraire. Il avait beaucoup réfléchi à ce problème et avait pensé un moment me confier la rédaction des chapitres traitant des institutions militaires. Il estima, à juste titre, qu'on ne les connaissait pas suffisamment pour en présenter une synthèse valable. Et ma contribution n'aurait fait que souligner une carence aveuglante et de plus nuit à l'unité de l'ouvrage. Je dois avouer qu'aujourd'hui, malgré plusieurs thèses et de nombreux articles de valeur, si la connaissance de ces questions a quelque peu progressé pour le XVIIIe siècle, il reste encore de très nombreuses zones d'ombre concernant la période 1718-1715 et le vide serait quasi béant pour celle qui précède. 144 pages de René Doucet et dans les institutions de la France au XVIe siècle et qui date de 1948, c'est-à-dire antérieur au réveil de l'histoire militaire en France. Actuellement encore, il est impossible, à mon avis, de compléter l'ouvrage de Roland Mounier d'une manière valable. Les quelques pages traitant des institutions que l'on trouve dans une biographie de Louvois ou dans le tome 1 de l'histoire militaire de la France l'attestent. Ce sera, je l'espère, l'œuvre de la génération qui se forme maintenant de combler cette lacune. Roland Mounier déplorait cette question. Il était persuadé de l'importance de la guerre dans l'histoire générale. Aussi condamnait-il la répulsion que suscitait dans l'université tout ce qui touchait à la guerre et à l'armée, dont on abandonnait volontiers l'étude à des militaires en retraite, omnubilés par l'histoire bataille, c'est-à-dire la forme la plus méprisable de l'histoire historisante. Lors du colloque de l'Association des historiens modernistes des universités tenue à Dijon en 1977, où Roland Mounier, touché par la retraite, abandonna la présidence de cette association qu'il avait fondée 10 ans auparavant, Roland Mounier expliqua que sa démarche d'historien avait été inspirée par son triple caractère de chrétien, de français et d'officier. Chrétien, il pensait que la guerre était un fait de nature, conséquence du péché originel. Officier de réserve, il aimait à rappeler qu'il avait fait ses classes à l'école militaire de Saint-Cyr et servait dans les chasseurs, ce qui témoignait, il ne disait pas, d'un bon classement de sortie. Il avait conservé une rigueur toute militaire, commençant sa journée par des exercices de gymnastique. C'est d'ailleurs au cours de ces exercices quotidiens, à 85 ans, que se produisit le fâcheux accident qui devait entraîner sa mort. Chacun pouvait remarquer sa marche, aussi bien réglée que sa démarche intellectuelle, le rythme d'un pas de chasseur, bien qu'il lui allongeait celui-ci, ce qui le rendait difficile à suivre pour des gens pesants. Homme de foi, résistant de la première heure et même arrêté quelques jours alors qu'il enseignait encore au lycée de Rouen, Roland Mounier répondait bien à la définition qu'il avait donnée de lui, chrétien, français, officier. Pendant longtemps, son intérêt pour la chose militaire ne fut connu que de quelques-uns de ses collègues et amis, dont M. le professeur Michel Bollet du Jourdain, son collègue au lycée de Rouen, avant de l'être à la Sorbonne. Ayant été le témoin de cet intérêt, permettez-moi d'évoquer ici quelques souvenirs personnels. M. Mola, en 1954, me conseilla d'aller voir Roland Mounier, alors professeur à Strasbourg, mais déjà pressenti pour la Sorbonne. Cette entrevue fut déterminante pour moi. J'avais commencé en 1949 des recherches sur les militaires de l'Ancien Régime grâce à Robert Dauvergne qui m'avait signalé l'existence aux archives de la guerre et des contrôles de troupes dont la consultation venait d'être autorisée. Source inestimable, donnant pour le seul 18e siècle et signalement de quelques 2 millions de soldats, 2 millions d'hommes, français et aussi étrangers. La méfiance éprouvée à l'égard de ces hommes en qui on voyait des déserteurs potentiels avait entraîné l'administration militaire à leur imposer le signalement que l'on considérait alors comme un viol de la personnalité. En dehors des étrangers, seuls les condamnés et les prostituées étaient soumis à ce qu'on appellera plus tard la mise en carte. Notre sensibilité a bien changé aujourd'hui puisque nous portons tous de nombreuses cartes d'identité qui nous décrivent plus ou moins bien, mais pas de manière contradictoire. Notre sensibilité donc a bien changé. Le signalement à cette époque était bien imposé aux soldats mais n'était pas aux officiers, gens au-dessus de tout soupçon. Aussi, par un étrange retour des choses d'ici-bas, aux yeux de l'historien de l'Ancien Régime, ce sont aujourd'hui les 100 grades qui sont les privilégiés dans ces documents de caractère administratif. J'étais alors influencé par l'histoire structurale que prônait l'école des annales. Je pensais qu'il y avait là, dans ces contrôles de troupes, une source exceptionnelle d'histoire sociale, non seulement pour les militaires, mais pour l'ensemble de la société, puisque suivant une boutade bien connue, les militaires se recrutent parmi les civils, et qu'à mes yeux, les militaires n'étaient pas pires que les civils dans une société réglée comme l'était celle du 18e siècle. Lorsque Roland Mounier fut nommé à la Sorbonne, mes premiers directeurs de thèse, Gaston Zeller, peu convaincu de l'intérêt de ce sujet, puis Paul Vaucher, avaient pris successivement leur retraite. Roland Mounier accepta d'emblée cet héritage quelque peu douteux. Alors, pour moi, tout changea. Dès notre première entrevue, 2 ans auparavant, le sujet lui avait plu. C'était un mi-parcours de recherche effectué en franc-tireur et sans trop de méthode. Roland Mounier m'apporta tout ce qui me manquait, méthode, mais aussi perspective. Roland Mounier était parti de l'étude classique des institutions. Je partais de l'histoire structurale, d'ailleurs pimentée d'histoire sociale à la manière anecdotique d'Albert Babot. Nos démarches se rejoignirent et je restais depuis ce moment-là dans le sillage de Roland Mounier. Pour en terminer avec ces souvenirs personnels peut-être trop complaisamment rapportés, je tiens à dire que cette thèse, soutenue en 1964, parut insolite à nombre d'universitaires qui considéraient le fait militaire sans sympathie. Et aussi à la plupart des militaires qui ne voyaient dans l'étude du soldat du 17e et du 18e siècle qu'un aspect accessoire d'une histoire militaire qu'eux-mêmes souvent considérés depuis la défaite de 1940, comme maîtresse d'erreur, puisqu'elle avait enseigné à refaire la dernière guerre et donc à perdre la prochaine. Roland Mounier fut à ce moment-là un des rares esprits à y voir un aspect essentiel de l'histoire générale, surtout si cette histoire militaire élargissait ses perspectives vers les relations d'homme à homme, les clientèles, les nécessités logistiques et morales et l'anthropologie. L'élargissement de recherches spécialisées dans tel domaine de l'activité humaine est une tendance aujourd'hui générale. Pendant longtemps, l'histoire militaire n'avait pas eu à souffrir de cloisonnement, car elle occupait la meilleure place dans les chroniques. Au XIXe siècle, dans un monde où les passions nationales étaient très vives, elle prit même un aspect militant dans une histoire essentiellement politique. La régression s'accomplit après 1918 et surtout 1940. Dans les éditions successives du Mallet, l'histoire militaire apparaît comme une peau de chagrin. Aujourd'hui, elle sort peu à peu du purgatoire en renonçant à exclure les autres aspects de l'histoire et à s'enfermer dans la seule étude de l'action ou des institutions militaires, en considérant le fait militaire dans son ensemble et en se mettant au service des autres. Elle tend vers une histoire globale, comme doit l'être l'histoire religieuse, l'histoire économique, l'histoire des techniques ou des mentalités, ou encore l'histoire régionale. Il est aussi réconfortant de constater ça et là l'apparition dans des ouvrages concernant d'autres domaines de l'histoire de passages relatifs à l'influence du fait militaire, de celle des divers aspects de la vie des hommes dans des livres d'histoire militaire. Citons deux réussites de ce rapprochement. Paris et l'armée au XVIIIe siècle de Jean Chagnot, qui montre l'insertion de l'armée et des militaires dans la société de la capitale, et tel chapitre de l'histoire de la population française de Jacques Dupaquet, consacré entièrement à la guerre de 1914. Remarquons également que l'histoire navale, partie à la fois de l'histoire militaire et de l'histoire maritime, avait souvent été plus ouverte sur l'histoire générale que l'histoire militaire dans le sens étroit. Enfin, dans la mesure où elle conduit à évoquer des confrontations, l'histoire militaire se doit d'être comparative. L'évolution de l'art militaire a connu de moins en moins les frontières. Napoléon ne fait-il pas partie de l'histoire militaire de l'Allemagne, comme les ingénieurs italiens du XVIe siècle, les maîtres du Tertio, ou Frédéric II de l'histoire militaire de la France? Cela par les imitations inspirées à leurs alliés ou à leurs adversaires, adoption lorsqu'il s'agit d'armement et de tactique, adaptation lorsqu'il s'agit de structure administrative. Le rythme des imitations s'est peu à peu accéléré. Il a fallu un demi-siècle pour que l'artillerie se répandît partout en Europe occidentale. 20 ans au XVIIe siècle pour le fusil muni de la baïonnette. Aujourd'hui, par le fait de l'espionnage, il arrive même que l'imitateur devance l'inventeur dans la réalisation d'armes nouvelles. La recherche en histoire militaire porte essentiellement sur deux aspects que Roland Mounier avait fort bien entrevus. D'un côté, l'histoire militaire, et non pas seulement les institutions militaires, d'un côté l'institution militaire, et non pas seulement les institutions militaires, c'est-à-dire également la prise en compte de la place de l'armée dans la nation, l'État, la société. De l'autre, bien entendu, l'action militaire, c'est-à-dire la guerre, étudiée comme un phénomène ne concernant pas seulement stratégie, tactique et combat, mais impliquant aussi ses conséquences sur l'ensemble des sociétés. On retrouve cette dichotomie, qui n'est qu'apparente, dans les intitulés des séminaires de recherche qui se sont constitués ça et là, armée et société, guerre et société. armée et société. L'expression est apparue au début des années 1960 aux États-Unis à la suite des études sociologiques du professeur Janowitz relatives à l'époque contemporaine. Peu après, elle entra en Angleterre et en France dans le domaine de l'histoire. En Angleterre, pays qui donna ses lettres de noblesse à la biographie, l'accent fut mis sur les individualités et sur les institutions. Pensons aux ouvrages de Western Scholar, Koch et Boynton, publiés coup sur coup en 1965, 66, 67. En France, sous l'influence de l'école des annales, reconnaissons-le, et grâce à l'admirable gisement documentaire des contrôles de compte, qui ne concerne pas seulement que le XVIIIe siècle, elle s'adressa en premier lieu à l'étude des masses, par la démarche quantitative. À cet égard, Marcel Reynard évoquait le vieux précepte militaire dont on peut se passer, comptez, comptez vos hommes, comptez, comptez les biens. De là, à l'école de l'historiographie française et anglaise, le réveil de l'histoire militaire, tout au moins en histoire moderne, gagna l'Espagne avec la belle thèse de René Quatrefages sur le Tercio, puis l'Allemagne et d'autres pays. Elle gagna même l'histoire de la Révolution. Les militaires prirent une place appréciable, d'autre part, dans les grandes prosopographies concernant les corps de l'État, magistrats, financiers, et cela avec la thèse d'Anne Blanchard sur les ingénieurs du roi. Ce n'est pas un hasard si, tout au moins en France, le renouveau de l'histoire militaire commença par l'Ancien Régime. On retrouve ici la pensée de Roland Mounier. C'est à lui que l'on doit deux redécouvertes, qui furent des révélations pour un grand nombre d'historiens. Deux redécouvertes concernant deux faits essentiels. Le premier est le rôle de l'armée, et par conséquent de la guerre, dans la formation de l'État. Le second est qu'après les valeurs religieuses, les valeurs qui sous-tendent les sociétés d'Ancien Régime sont des valeurs militaires. Ce n'est pas pour rien que les détracteurs des valeurs traditionnelles ont associé le sabre et le coupillon. Ces nouveaux axes de recherche, dont s'enrichit l'histoire du fait militaire, furent adoptés par des universitaires qui, en s'inspirant des autres domaines de l'histoire, travaillèrent à replacer les gens de guerre dans la société de leur époque. C'est ce que m'avait demandé de faire Roland Mounier, c'est ce que bien d'autres ont fait. Ainsi, peu à peu, se dessinèrent à la fois certaines caractéristiques non seulement des hommes qui exerçaient le métier des armes, mais surtout de la manière dont ces hommes étaient considérés par les autres. Ainsi, on put mieux comprendre l'évolution qui se fit dans les esprits à partir du règne de Louis XIV, évolution qui aboutit à la formation de l'armée moderne et à sa place actuelle dans la nation. En effet, on était passé d'une société où la hiérarchie sociale reposait sur l'exercice des armes dont la noblesse revendiquait le monopole, et où l'homme de troupe était méprisé, à une société où le service de l'État, puis au XVIIIe siècle, la production des richesses et la promotion des techniques, entraînaient un recul relatif des armes dans la considération publique, et par voie de conséquence, la formation d'une société militaire professionnalisée, quelque peu repliée au sein de la société. En même temps, une meilleure organisation et une discipline rigoureuse introduite dans l'armée par Louvois avait amené une lente réhabilitation du soldat dans l'opinion. De là vint également une distinction plus nette entre gens de guerre et population, on dirait aujourd'hui militaires et civils, avec des obligations différentes. À la notion de devoir militaire par les armes, les prestations, l'impôt, jamais aboli, se superposa celle de service militaire par la voie d'engagement liant les soldats, non plus à leur chef, mais au roi. c'est-à-dire à l'État, et conférant à ceux-ci un statut particulier. Louis XIV renonça à faire appel à l'arrière-ban en cas de danger pour imposer le service dans la milice à des jeunes gens tirés au sort, afin de suppléer au manque de volontaires pour le recrutement d'une armée devenue permanente et très nombreuse en cas de guerre. L'impôt du sang pendant la guerre de succession d'Espagne atteignit un homme sur 10 en âge et en état de porter les armes, c'est-à-dire autant qu'en l'an 2. Mais cela a été oblitéré par la levée en masse de l'an 2 dans l'historiographie contemporaine. Bien entendu, j'ai dû schématiser les faits. Les institutions militaires anciennes aux relents féodaux, utilisées par les factions lors des guerres civiles séculaires, elles avaient trop souvent été des armes à double usage, comme le sabre de M. Prudhomme. Désormais s'établit en France un espace de paix qui ne fut troublé que par la Révolution. L'armée contribua au maintien de l'ordre public et même à la santé publique par l'établissement de cordons sanitaires contre la peste, comme l'a fort bien montré Pierre Chauny, alors que cette même armée avait autrefois véhiculé bien des épidémies. Et enfin, par ses besoins, l'armée a contribué à l'essor économique de provinces ravagées avant leur annexion, ce qui, entre parenthèses, a facilité leur insertion dans la patrie française. Son recrutement, certes, avait souvent été forcé sous Louis XIV, mais il réduisit la mendicité et le vagabondage, assainit les populations des villes. L'institution des Invalides étudiée par Jean-Pierre Bois y fut pour beaucoup. L'armée a certainement eu sa part dans l'établissement de mesures plus policées, d'un meilleur contrôle de soi, d'une sensibilité plus affinée et par conséquent dans le recul de la violence qu'elle a canalisée selon l'expression de Pierre Chauny. Tout cela était dans la pensée de Roland Mounier. Nos conversations l'attestent suffisamment. La pensée s'est précisée petit à petit, mais dès le début, Roland Mounier avait envisagé toute l'ampleur de ces problèmes. Mais dira-t-on, n'est-ce pas confondre la cause et l'effet en ce qui concerne, disons, l'avènement, la formation de l'armée moderne? L'armée bien administrée et assurant l'ordre public n'était-elle pas seulement un des moyens employés pour se faire respecter par une monarchie devenue administrative au XVIIe siècle? Bien, ce serait oublier les origines de cette monarchie administrative. Il peut apparaître superflu de rappeler que ce sont les besoins militaires qui sont à l'origine de l'impôt royal, dont la levée ne pouvait être abandonnée sans contrôle aux collectivités locales, provinces, bonnes villes, etc. La grande enquête menée sur les intendants par Roland Mounier et ses élèves nous a montré ces dévouées créatures du roi, travaillant dans les provinces à résoudre tous les problèmes, y compris ceux qui concernaient l'armée, en coopération avec les gouverneurs militaires et avec les généraux. Ainsi, le fait militaire a été étroitement associé à la construction de l'État moderne. Dans cette œuvre, il a souvent eu un rôle pionnier, notamment dans la prévision. Les grands commis de Louis XIV, Colbert, Le Tellier, Louvois, Vauban, pour ne citer qu'eux, y ont consacré une part importante de leurs activités. On pourrait étendre à l'organisation de la production, au développement des techniques et des sciences, y compris plus tard de la médecine, le rôle que les armées ont joué auprès des pouvoirs publics comme aiguillon et champ d'expérimentation. Il est juste de reconnaître que dans de nombreux domaines, dont la logistique, la marine a précédé l'armée de terre, car sur mer, la guerre nourrit rarement la guerre, comme elle le faisait souvent alors sur le continent. On conçoit que ces considérations offraient peu d'intérêt pour les militaires, soucieux de prospective, à une époque, la nôtre, où administration, technique, structure sociale et mentalité sont si différentes de celles de l'ancien régime. Aussi, bien qu'ayant pris conscience depuis l'effondrement de 1940 de l'importance de ces problèmes, les militaires préféraient-ils s'adresser d'abord aux sociologues, aux psychologues, aux économistes, qui, il faut bien le dire, travaillent plus vite que les historiens. Et parmi les historiens, tout naturellement aux historiens contemporanistes. C'est pourquoi je tiens à saluer l'ouverture d'esprit du général Fernand Gambier, qui comprit que les problèmes sociaux et psychologiques évoqués à propos des périodes plus anciennes continuaient à se poser sous d'autres formes, évidemment, à notre époque, et qu'il pouvait éclairer l'histoire militaire. Il accorda dans l'histoire militaire une place à l'histoire des militaires, ainsi qu'à tout ce qui constitue l'environnement de l'art militaire. Or, cette conversion du général Gambier à une histoire militaire élargie vient en grande partie des conversations qu'il eut avec Roland Mounier, son confrère à l'Institut. Grâce au général Gambier, ses vues sont généralement acceptées par les militaires d'aujourd'hui. Si en Angleterre, Sir John Clarke avait, dès 1958, publié un recueil d'articles intitulé « War in Society in the 17th Century », en France, les universitaires ralliés à l'étude des militaires avaient tendance à négliger l'étude de la guerre, soit parce qu'ils subissaient l'influence du discrédit qui s'attachait à l'histoire bataille, soit par tactique, parce que la réintroduction de l'histoire militaire dans les universités se devait d'être discrète. Si, bravant l'opinion de leurs collègues, ils avaient agi autrement, leur salle de cours serait restée vide. Rendons hommage à ce sujet au courage du professeur Henri Contamine, en histoire contemporaine, qui effectua presque seul une véritable traversée du désert. Roland Mounier, qui déplorait cette situation, notait qu'en 1949, Georges Pagès, son maître qu'il vénérait d'ailleurs, avait publié une histoire de la guerre de 30 ans dans laquelle il ne se tirait pas un coup de mousquet, pas un coup de canon. En 1975 encore, en Sorbonne, un colloque sur Napoléon évacuait complètement la guerre et l'armée, comme si celle-ci n'avait eu aucune action sur la vie économique, sociale, religieuse, spirituelle, culturelle, artistique. Aussi, le fait qu'en 1967, Georges Livet, dans un brillant Que sais-je, et Victor Lucien Tapier, dans un cours sur la guerre de 30 ans, non seulement, pour cette guerre, replaçaient les événements politiques dans leur environnement social, mais n'oubliez pas de parler des combats. Peu à peu, les universités, et je précise que Georges Livet avait été l'assistant de Roland Mounier à Strasbourg, on retrouve. Peu à peu, les universitaires s'enhardirent à traiter de la guerre. Et en 1985, la Société d'études du XVIIe siècle organisait un colloque sur présence de la guerre au XVIIe siècle. Il s'agissait d'ailleurs plus de ses caractères et de ses conséquences que d'art militaire et de bataille. Lorsqu'en 1969, sous la houlette du général Gambier, quelques universitaires et militaires acceptèrent de travailler ensemble dans le cadre de la Commission française d'histoire militaire, les premiers contacts furent assez difficiles. Certes, les uns et les autres étaient des chercheurs de bonne volonté, ouverts aux apports de l'autre. Toutefois, les universitaires, par discrétion à l'égard des gens de métier, ne s'aventuraient pas sur le terrain de la stratégie et de la tactique. Tandis que les militaires reprochaient aux universitaires de négliger dans l'étude qu'ils faisaient des militaires la spécificité du métier militaire, le combat et ses risques. L'échange néanmoins devait être fructueux. Le véritable point de rencontre fut l'étude du comportement des hommes au combat suivant leur caractère sociologique et leur mentalité. Ce fut le thème que Henri Contamine, alors président de la Commission internationale d'histoire militaire, fit accepter pour le colloque d'histoire militaire tenu dans le cadre du
13e congrès international des sciences historiques à Moscou en 1970. Le XVIIe siècle n'y fut pas absent, bien que sa part était assez limitée. Peu après, le général Gambier associe militaires et universitaires dans une enquête originale sur la peur et la panique dans l'histoire. Arrêtons-nous un peu sur ce titre insolite, surtout venant de la part d'un homme de guerre. Oui, il avait la caution quand même d'un authentique combattant. Sans doute témoignait-il d'un souci prospectif, analyser les causes de panique pour en trouver les remèdes. Mais il témoignait également du fait que l'histoire militaire n'était plus considérée comme un simple Kriegsspiel et que l'étude des opérations militaires s'incorporait la connaissance de tous les facteurs humains que pouvaient lui apporter les autres domaines de l'histoire, recrutement et entraînement médiocre, mauvaise préparation logistique, méconnaissance du terrain ou de l'adversaire, manque de motivation, espoir déçu, fausses rumeurs de paix ou de trahison. Ainsi sont à rechercher dans les sources les plus diverses les moindres indices du fonctionnement de la machine militaire. Alors furent créés dans les universités des centres de recherche de défense et d'histoire militaire, avec, il est vrai, le risque de voir la prospective marginaliser l'étude des périodes antérieures à 1945, considérée comme une sorte de préhistoire. Cependant, les modernistes, et plus précisément les 17e-istes, résistent à cette dissymétrique entre adversaires disposant de structures économiques et culturelles, donc de moyens différents, guère par procuration que se livrent les grandes puissances en soutenant des alliés dans des combats périphériques. Tout cela ne sont pas choses nouvelles. Ce sont les termes qui sont nouveaux. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ils ont pris une place considérable. Leur extension a amené les polémologues et les militaires aux prises avec les réalités à élargir la notion de guerre en celle de conflit dont les grands affrontements armés ne sont que le paroxysme. Là encore, on retrouve la pensée de Roland Mounier, qu'il a exprimée dans la première partie de la préface de l'Université. Stratégie et tactique sont des arts à exercer non seulement en temps de guerre, que sont les diverses guerres larvées, comme le fut la guerre froide, état fait de paix officielle entre les grands, mais souvent de guerre entre plus petits, dont les aspirations ont été excitées à dessein, voire créées par d'autres. D'où, à côté de la guerre générale, la guerre globale ou la guerre totale, des guerres limitées, soit par la diplomatie, le manque de moyens, la pression de l'opinion, et des guerres civiles qui restent rarement des champs clos concernant une nation. La notion de Kriegsspiel, war game, gioco della guerra, qu'on s'est refusé à traduire en français par le jeu de la guerre, n'est plus prépondérante comme elle le fut à l'époque des guerres classiques entre professionnels des 18e et 19e siècles, exception faite de l'intermède de l'an 1, un peu de l'an 2, et de la guérilla espagnole contre les armées de Napoléon. Aussi, les militaires ont-ils été amenés à redécouvrir des préceptes qu'ils n'avaient pas formulés, comme les préceptes exprimés par Sun Tzu, postérieur d'un siècle à Confucius, et devenus aujourd'hui soudainement à la mode. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher si loin. Les militaires se sont-ils rendus compte, finalement, que l'étude des guerres napoléoniennes, voire de la guerre de 1914, leur était moins utile aujourd'hui que celle des guerres de religion et ou de la guerre de 30 ans. Certes, les conditions de la guerre au XVIIe siècle et à la fin du XXe siècle apparaissent bien différentes. Peut-on comparer le mousquet qui exigeait plusieurs minutes pour tirer et les armes automatiques actuelles, la couleuvrine et les missiles? En revanche, il apparaît que les motivations et les comportements des hommes ne sont pas sans analogie. Les motivations religieuses qui
d'ailleurs n'ont pas disparu, on le voit constamment aujourd'hui, sont relégués par l'idéologie politique ou nationaliste. La distinction sécurisante entre militaire et civil, péniblement établie par le droit des gens à la fin du XVIIe siècle, a volé en éclats. Les militaires ne se sentent plus tenus de respecter les civils qui ne s'interdisent plus des actes de guerre. Les séquelles de la décolonisation, les déchirures de la Yougoslavie ou du Caucase nous ramènent en pleine guerre de 30 ans, avec ces guerres couvertes, comme on disait au XVIIe siècle, et ces suspensions d'armes aussitôt violées que signées, tandis qu'on continue à négocier. Fort heureusement, la guerre et les armes ne sont qu'une des activités humaines. Si leur étude tire profit des recherches dans d'autres domaines de l'histoire, à l'inverse, l'histoire dite militaire peut et doit contribuer à la connaissance de ceux-ci. Beaucoup d'universitaires l'ont compris. On a pu entendre dans des colloques dont le thème en est fort éloigné, comme l'enfant, la mort, la sociabilité, des communications sur la société militaire et l'enfant, la mort du soldat, la sociabilité militaire. Fait significatif, en 1984, moins de 10 ans après le colloque sur Napoléon désarmé, Fernand Braudel, peu suspect de sentiments bellicistes, organisé à l'Institut d'Attigny de Prato, au lieu de l'histoire économique, un colloque sur le rôle de la guerre dans l'économie. Enfin, en 1990, le ministère de l'Éducation acceptait que figurât au programme de l'agrégation d'histoire une question intitulée « Paix et guerre dans l'Europe du XVIIe siècle », en fait, ayant la guerre pour objet. L'invité de notre collègue Béranger a été de faire passer ce sujet en le libellant ainsi « paix et guerre ». Cela eût été impensable un demi-siècle auparavant. On rejoint ainsi la pensée et l'influence discrète dans ce domaine, mais combien efficace de Roland Mounier, auquel j'emprunterai la conclusion de cet exposé, pour bien montrer qu'il ne faut pas s'attacher aux apparences et que la rénovation de l'histoire militaire actuelle vient d'abord de la pensée d'hommes qui ne sont pas connus comme des historiens militaires. Dans la préface qu'il qualifie lui-même de musclée de l'histoire militaire de la France, Roland Mounier s'exprimait ainsi. L'armée et la nécessité de mobiliser des hommes, de les encadrer, de leur fournir des vivres ou de leur permettre de se les procurer, de les obliger à s'armer ou de leur fournir des armes, de prévoir des plans de campagne et de mener les troupes au combat, les nécessités de la logistique, de la stratégie, de la tactique ont été à toutes les époques une source du développement des sociétés humaines, de la forme politique de nos sociétés, de la naissance très tôt des États, du perfectionnement de l'État et des institutions, de la pensée juridique, philosophique et morale, tout y est. Et Roland Mounier ajoutait, le refus de regarder en face le fait militaire a coûté beaucoup à la connaissance historique, probablement a-t-il coûté plus encore à la nation tout entière, qui a failli disparaître en juin 1940 et qui n'a dû de survivre qu'à un miracle. Je vous remercie de votre attention.
Nous vous remercions de cette communication si intéressante, si riche au point de vue méthodologique et historiographique, et j'imagine qu'il y a des questions. Nous avons temps. Un temps suffisant à consacrer aux questions. Qui veut intervenir? Pierre Chenu. Je vous remercie. Autre réflexion, intervention, Jean-Paul Le Flemme.
La sociologie militaire, la vision de la guerre dans semble appeler les progrès, il y a un domaine pourtant où l'armée a été pionnière, c'est dans la science. Et il y a une histoire de l'armement, et en même temps que de la science, qui serait utile de faire rentrer dans l'université, et même dans la nôtre.
Merci. Jean-Pierre Brancourt. Ou les Mexicains. Les Cristeros. La marine a très souvent précédé l'armée de terre, pour la bonne raison que quand on s'embarque pour une expédition dont on ne sait pas ce qu'elle sera exactement, et on ne sait pas ce que l'on pourra trouver au bout du compte, on est obligé d'emporter ce dont on a besoin, donc de préparer, donc de prévoir, donc d'administrer, donc oui, toute une logistique qui... Et doit être absolument pensé de manière autonome, alors que, et notamment au XVIIe siècle, on a trop tendance encore à penser que la guerre nourrit la guerre, mais pas seulement au XVIIe siècle. Les armées napoléoniennes se sont nourries sur le pays. Le drame, ça a été quand on a été reconduit sur notre territoire. Alors là, évidemment, on ne pouvait plus exploiter les pays occupés. Alors pour la médecine, non seulement la médecine coloniale, oui, mais je dirais même la médecine, les médecins militaires de la fin du XVIIIe siècle ont contribué énormément, je ne parle pas des chirurgiens, au progrès de la médecine. Et Pierre Chaunu qui a insisté beaucoup là-dessus, l'organisation des cordons sanitaires a été pour beaucoup. En 1720, on a fait venir 400 Hongrois, enfin, ou gens de Transylvanie, des échappés des bandes de Rakovsky, pour constituer un régiment de hussards. Et ils n'ont pas pu débarquer à Marseille parce qu'il y avait la peste. Et à quoi a-t-on employé ces gens qui étaient faits pour des raids, pour la petite guerre? Eh bien, on les a employés à faire un cordon sanitaire tout autour de la ville de Marseille. Et ça, sans aucun doute, c'était la méthode un peu rude, mais enfin, la méthode la plus efficace pour lutter contre les épidémies. Et si l'armée a certainement véhiculé des épidémies, ça ne fait pas de doute, elle a aussi contribué à éteindre la peste dans l'Europe occidentale.
François Crouzet voulait intervenir.
Ouais. peur, et alors ça s'exprime par Gorbachev, tout ça en guerre. Alors nous sommes allés voir les hommes fabriques qui étaient visés dans la décoration, et également le sculpteur qui devait conditionner ce qu'il fait, et alors ils refusaient catégoriquement en disant que c'était un calembour, un espèce de frise, d'après la vie, une effet académicien. Et alors,
y a-t-il des réflexions, des interventions sur cette liaison des travaux de Roland Mounier ou de ses directions de recherche avec le fait militaire? Mon père. Peut-être a-t-il espéré, pendant un certain temps, à faire ce troisième volume, dans lequel il y avait encore beaucoup de choses à ajouter, pas seulement les institutions militaires, mais en particulier les institutions militaires, car cette lacune lui était cruelle, il la ressentait très très cruellement, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, et parce que il me l'avait dit. Vraiment, on n'avait pas encore les éléments nécessaires pour faire une synthèse, enfin, du niveau de ce manuel sur les institutions de la monarchie d'ancien régime. Et moi-même, je le pense encore également, on pourrait le faire pour le XVIIIe siècle, peut-être encore d'une manière un peu superficielle pour la période de Louis XIV, mais pour ce qui précède, notamment pour le XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, il y a des travaux en cours à l'heure actuelle qui vont... j'en suis persuadé, d'après les quelques résultats que m'est donné de connaître, et qui vont remettre en cause, bon, peut-être pas remettre en cause parce qu'on ne sait pas grand-chose, mais qui certainement vont bouleverser le peu que l'on sait sur cette période-là. Et Roland Mounier, qui n'était pas au courant de ces travaux qui sont tout à fait en cours à l'heure actuelle, et qui n'ont commencé qu'au moment où Roland Mounier, disons, s'occupait surtout de terminer son Richelieu, eh bien, Roland Mounier le pressentait.
Bien, nous allons nous séparer. Je crois que la dernière réflexion montre bien qu'il y a à la fois chez lui une grande audace de s'occuper des Iroquoiens ou des Tupi-Guarani et des réductions des Jésuites, avec une analyse, une pensée, je dirais, cosmique, et en même temps la prudence nécessaire pour ne pas aborder des sujets où il manquait quand même de munitions. Il le disait, n'est-ce pas, très souvent. Bien, nous nous séparons, monsieur le recteur, si vous le voulez, maintenant, pour reprendre donc à 14h30 ici.